je m'appelle Vincent. J'habite l'île de la Réunion. Mon épouse s'appelle Denise. Et elle est toujours là-bas. Elle ne pouvait pas venir avec moi parce que c'est elle qui assure les réunions dans mon absence. Vous voyez? Alors, on pense tous à elle. Beaucoup d'entre vous, vous la connaissez. Et c'est vraiment une grande joie. Et je peux vous dire honnêtement, c'est pas sans émotion que je me tiens devant vous ce matin. Ça remonte, comme a dit Antoine, qui fait un peu de la nostalgie, mais on a le droit aussi. C'est pas la nostalgie, c'est un retour en arrière de ce que Dieu a fait. C'est vrai qu'en 89, Antoine et Christiane, Denise et Vincent ont lancé une initiative d'implantation d'églises, création des nouvelles fédérations. Vous connaissez, pour ceux qui nous ont suivis, l'histoire. C'était un mouvement qu'on voulait réunir des amis, que des amis puissent se retrouver pour servir Dieu ensemble et s'encourager. La structure qu'on a mise en place était une structure légère, sans trop de règlements intérieurs. Il y avait le minimum, quoi. Et on a servi, moi j'étais son président fondateur pendant 17 ans. On a connu des moments terribles d'opposition. Pendant 11 ans, je me suis battu pour que notre mouvement entre à la Fédération protestante de France. Ça a été 11 ans où j'ai été humilié par ceux qui ne voulaient pas de nous. Mais à la longue, j'ai gagné. Et c'était une belle victoire. L'année dernière a été une année difficile pour Denise et moi parce qu'on s'est retrouvés devant... une opposition au sein de notre propre mouvement, je dois le dire. Nous avons essayé un dialogue, un partage pour que les choses s'améliorent. Mais en fin d'année, puis en début de cette année, nous nous sommes trouvés devant un véritable blocage. Et on était dans une situation impossible où notre seule issue, c'était de démissionner du mouvement que nous avons nous-mêmes créé, avec la sueur et les larmes et le prix que nous avons payé pour les différentes églises et ministères que nous avons pu établir pendant toutes ces années. Et Denise et moi ne sommes pas des gens à travailler seuls. Donc j'ai pris contact avec un ami qui est président d'une autre fédération en France. Et j'ai dit, écoute, voilà la situation. Est-ce que vous serez prêt à nous accueillir en tant que ministère et église? Et c'était oui tout de suite. Et c'est là où, comme un choc, parce que rien ne m'avait été expliqué avant, j'apprends par Antoine que lui-même avait l'intention de prendre sa liberté. Et c'est là où il a commencé à me parler de ce que Dieu lui avait mis à cœur, Emma. Et dès le début, j'ai dit, écoute, Antoine, c'est un retour au départ de Vie chrétienne en France. Parce que Vie chrétienne en France, c'était quelque chose qui était né de l'esprit. Vie chrétienne en France, c'était quelque chose qui a balayé ce pays et qui, à cette époque-là, fin des années 80, début des années 90, on surfait une vague de l'esprit qui nous aurait pu conduire je ne sais d'où. Et après, sans rentrer dans les détails, ça ne s'est pas fait comme ça. Et donc aujourd'hui, nous nous retrouvons avec les mêmes et on recommence. Et on recommence sur les mêmes principes qui nous ont unis au départ, Antoine, hein? On veut du Saint-Esprit. On veut du Saint-Esprit, nous. Gagner des âmes, pour nous, c'est important pour une église. toutes les églises évangéliques disent « Nous voulons gagner des âmes ». Il n'y en a pas une qui dit « Nous ne voulons pas gagner des âmes ». Mais il y en a combien qui sont vraiment convaincus de cela? Et nous voulons aussi croire que Dieu suscite des ministères, qu'il y a des hommes, des femmes, des jeunes qui, dans leur cœur, ressentent un appel de Dieu et nous voulons honorer ça. Nous avons pu, dans le courant toutes ces années, nous avons pu prendre des gens qui avaient été rejetés par d'autres mouvements et nous avons cru en eux et nous les avons accompagnés, nous avons aidés. Parfois, il fallait les recadrer, les corriger, mais les former. Et aujourd'hui, ces mêmes personnes sont en train de faire un bon travail pastoral. Une personne avec qui nous avons commencé le travail à l'île de la Réunion il y a plus de 20 ans maintenant, s'appelait Éric Babeuf. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent d'Éric Babeuf? Voilà, plusieurs. Éric, c'est un Réunionnais, sa femme Sylvaine. J'étais là tout au début de leur église. J'ai participé à sa création. J'étais le président du mouvement à l'époque. Régulièrement, j'allais là comme pompier pour éteindre les feux. Et voilà que l'église là-bas a connu une crise de trop. Et que suite à cette crise, eh bien, Éric a eu un coup de choc. Ça arrive. Mais le choc était tellement terrible que ça l'a amené dans une traversée du désert qui a duré 20 ans. Il y a eu toutes sortes de choses qui ont été dites sur lui. Une mesure de vérité. Depuis que Denise et moi nous sommes à La Réunion, ça fait 4 ans maintenant quand même, je n'avais plus revu Eric depuis 20 ans. Et pendant ces 4 ans à La Réunion, on ne s'est jamais croisé dans un centre commercial. Quand tout d'un coup, je reçois un coup de fil un jeudi soir, non pas d'Eric, mais d'un homme qui est très respecté à l'île de La Réunion, dans tous les milieux chrétiens. Un homme que j'apprécie énormément, un homme de confiance, que je savais qu'accompagner lui et sa femme, il accompagnait Eric. Et il m'a dit, écoute Vincent, est-ce qu'on peut venir à 10 personnes à ton culte dimanche prochain? J'ai dit, qui sont les 10 personnes? Et donc, mon interlocuteur m'a expliqué, j'ai dit, oh là 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 là, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Des 10 personnes qui étaient présentes ce jour-là, il y en a 2 présents ici aujourd'hui, c'est José et Johanna, pasteurs brésiliens à Paris. Et j'ai fait connaissance de José et Johanna ce jour-là dans notre culte. Et voilà que je me suis retrouvé face à face avec Eric. On avait tous les deux vieilli un peu. Lui, il a encore moins de cheveux que moi. C'est pour ça, d'ailleurs, que les hommes se rasent la tête, pour qu'on le voit moins. Et c'était vraiment un peu surréel. On a déjeuné ensemble avec tout le groupe. J'avais déjà compris quand même qu'il y avait eu un travail en profondeur qui avait été fait. Un travail de repentance, un travail de restauration, un travail aussi de reprise de confiance dans le ministère. Et donc, je ne laisse pas les choses comme ça. Donc j'ai invité, Denise et moi, nous avons invité Eric et Sylvaine à venir à la maison déjeuner pour qu'on se voit entre 4 yeux. Et dans le courant de ce repas, je lui ai posé les questions qu'il faut se poser dans des situations comme ça. Résultat de la course, c'est que j'aimerais vous dire que je suis en pleine confiance aujourd'hui dans une reprise de ministère d'Éric, Il voulait être présent lors de ce week-end. Et je vous dis, il voulait vraiment être présent. J'ai expliqué l'histoire à Antoine. Antoine, il a dit, Vincent, je te fais confiance. Okay. Mais la situation fait qu'il n'a pas pu venir parce qu'il y a eu une situation précipitée dans une église dont il va et il a repris le pastorat. Je dirais, Johanna, une deuxième chance que Dieu lui donne. Hein, c'est toi qui as reçu ça. Hein. Et Dieu lui donne une deuxième chance. C'est un homme qui a un ministère d'enseignement à la pointe. Une richesse pour nous si les conditions sont bonnes. Et je crois que les conditions sont bonnes. En tout cas, si je vous parle de tout ça, c'est parce qu'il m'a demandé de lire un courrier qu'il a adressé à nous tous. Je voulais vous donner le contexte d'abord pour que vous puissiez comprendre. Alors, je vous lis son courrier, sans d'autres commentaires. Chers amis, c'est peut-être un principe que je devrais abandonner, mais écoutez, la lecture d'une lettre ne m'a jamais paru très intéressante, surtout dans le cadre d'une rencontre comme celle que vous êtes en train de vivre. Il se met déjà dans le bain de cette journée. Toutefois, j'ai tenu à vous adresser celle que vous entendez, tout d'abord en souhaitant que vous serez plus indulgent que moi sur le principe, et ensuite parce qu'elle est motivée par deux raisons précises. Premièrement, j'ai réellement désiré être parmi vous et jouir de ce temps de communion et d'enrichissement mutuel. D'autant plus que cela m'aurait donné l'occasion de retrouver ce cher ami Antoine que je n'ai plus vu depuis 20 ans. Qu'il reçoive ici mes pensées les plus sincères et les plus affectueuses et surtout ma reconnaissance pour l'initiative de ce week-end. Si je suis absent de corps, mon cœur est pleinement avec toi, Antoine, et avec tous ceux qui sont présents en ce lieu. Mon envie de venir participer à ce week-end, donc deuxième raison, mon envie de venir participer à ce week-end a été contrecarrée par une nécessité que je pense vous allez tous comprendre. Notre église locale, face à un imprévu, a dû rapidement aménager dans un nouveau bâtiment avec les défis que cela comporte pour une petite congrégation. L'ensemble des responsables ont estimé que ma présence pour l'occasion était nécessaire, surtout que nous tenons notre premier culte ce week-end précisément, donc c'est aujourd'hui, un samedi soir. C'est ainsi que j'ai dû renoncer au plaisir de me joindre à vous, mais uniquement pour cette fois-ci, car j'espère que l'occasion se représentera et que nous pourrons, vous et moi, nous retrouver et nous édifier ensemble autour d'une vision commune. Je pense et je prie pour votre week-end, attendant le retour de Vincent, pour qu'il me raconte les beaux moments que vous allez vivre. Malgré la distance, je tiens à affirmer que je suis avec vous, ensemble. Dans la mission apostolique. Bien à vous en Christ, Eric Babel. Vous m'excusez, mais je vous ai prévenu. À la Réunion, on est en train de vivre quelque chose que je ne maîtrise pas trop. Notre jeune église, numériquement, n'a pas énormément grandi. Il y a beaucoup d'instabilité à la Réunion. Des gens viennent, des gens partent. Encore plus que chez vous, je peux vous le dire tout de suite. Mais ce qui est étonnant, c'est que nous sommes en relation avec une belle église à Saint-Denis, conduite par le pasteur Rodolphe et Vouni, son épouse. Nous avons fait la reconnaissance de Rodolphe avec le pasteur Jules l'année dernière, au mois d'avril. Et j'ai fait leur mariage au mois de février. Et ils attendent déjà leur premier enfant. Magnifique. Et un jour, sur Facebook, je reçois quelqu'un qui répond à une photo que Chantal a postée sur Facebook en disant « Et c'est pour quand Mayotte ?» Je dis « C'est quoi ça ?» Parce qu'il y a des gens qui disent ça, ils lancent ça. Alors, quand est-ce que vous allez nous rendre visite? Alors, moi, j'ai répondu. Et ça a commencé une relation avec Daniel. Et puis, Daniel, on a fait connaissance à Madagascar au mois d'avril quand j'avais une école pour gagneurs d'âmes à assurer. Et Daniel est venu à ses frais, largement, nous rejoindre à l'île de la Réunion pour notre premier séminaire Grandir Ensemble. En fait, c'était le deuxième. Et suite à ça, je l'ai invité à venir ici aujourd'hui. Il a recommencé un groupe, il ne vous a pas tout dit là tout à l'heure. Il ne vous a pas tout dit. Et dernièrement, il a dû recommencer à zéro. Il faut du courage pour être pionnier. Et il a demandé si c'était possible de porter notre nom. Parce qu'il ne voulait pas être seul à Mayotte. Et nous avons eu d'autres personnes, des couples qui sont venus de l'est de l'île et qui ont dit, est-ce que Vincent, tu pourrais nous aider, nous. Et alors avec eux, nous avons commencé une église dans l'est, une église qui gagne des âmes à Christ. Ils sont déjà une trentaine, après même pas leur première année. Et il y a 2 semaines, nous avons fait la reconnaissance pastorale du couple pastoral là, dans cette église. Et ils s'appellent Samuel et Hortense, ils sont remarquables. Ils avaient tellement envie de venir ici ce week-end. Mais pour des raisons, Samuel n'a pas pu se libérer de son travail, donc ils ont été bloqués. Mais là, c'est une troisième église à La Réunion, à Mayotte, c'est parti aussi. On a 2 autres groupes, dont un a commencé la semaine dernière dans une autre région de l'île. Et maintenant, si la bénédiction de Dieu suit, eh bien, moi j'y crois. On a 3 églises plus 2 autres groupes dans 2 autres régions avec... Écoutez, je ne sais pas où on va avec tout ça. Bon, je ne veux pas vous donner tous envie de venir parce que vous allez tous venir sinon. Mais moi je suis très reconnaissant au Seigneur que eh bien, un vieux routier comme moi, il a encore quelque chose à faire. Alors, j'aimerais vous apporter un message quand même, hein, pas faire du sentimentalisme. Mais c'est vrai que je ne sais pas comment vous, les prédicateurs ici, je ne sais pas comment vous préparez pour prêcher. Mais avant que je me lève pour prêcher, dans les moments, dans la nuit qui précède une prédication, eh bien, la chose qui est le plus important pour moi, quand je me lève pour prêcher, c'est d'aimer les gens à qui je vais prêcher. C'est la chose la plus importante. Je dis parce que Paul dit, si je n'ai pas l'amour, je suis une cymbale retentissante. Je fais du bruit, c'est tout. Et dans la nuit du vendredi, samedi, eh bien, j'ai prié pour vous, j'ai prié pour moi, pour que je puisse vous aimez. Et ce qui m'a étonné, c'est qu'en arrivant, eh bien, tout de suite, j'ai ressenti votre amour pour moi. Ah, c'est pas toujours le cas. Et je vous remercie beaucoup. Parce que ce qui est différent de cette rencontre par rapport à d'autres rencontres de conventions nationales, congrès, machin, c'est qu'il n'y a aucune obligation d'être ici aujourd'hui. Vous êtes venus parce que vous avez senti qu'il y avait des enjeux spirituels dans notre rencontre aujourd'hui. Et vous êtes venus pour recueillir les fruits de ce que Dieu va faire aujourd'hui, mais dans les années à venir. Vous l'avez senti, vous l'avez pressenti, et ce n'était pas possible pour vous d'être absent aujourd'hui. Le message que j'aimerais vous apporter sera en 2 parties. Il y a le moment avant repas et il y aura le moment en fin d'après-midi. C'est certainement le message le plus important que je vais prêcher toute cette année. J'aimerais vous dire que je crois que c'est le message le plus important que j'ai prêché depuis de nombreuses années. Je ne l'ai jamais prêché avant et je crois que je ne prêcherai jamais plus. Je me trompe peut-être. Mais ça a une importance. J'aimerais vous parler, comme vous avez vu, redécouvrir l'importance du ministère de l'apôtre. C'est mon titre. Et je remercie en passant Fred Poulken, qui jusqu'à 1h du matin a travaillé le PowerPoint qui vous permet de plus facilement suivre ce message qui sera quand même structuré. Fred, merci. Je dois vous avouer, j'ai toujours eu un problème avec le mot apôtre. Quand les gens l'utilisaient, j'étais un peu mal à l'aise. Et quand je me suis interrogé, mais pourquoi est-ce que tu réagis quand tu entends ce mot apôtre? Eh bien, je pense à deux incidents. Le premier, c'était lorsque j'étais jeune pasteur dans une grande église à Brisbane. J'étais le pasteur des jeunes. Et un jour, il y avait un orateur qui était venu de l'Amérique et qu'il a prêché dans sa prédication, il a dit « Je crois aux apôtres ». Et il a dit « Si vous ne croyez pas aux apôtres, eh bien, vous pouvez venir à la fin de la réunion pour me toucher ». Écoutez, peut-être des Américains, ils peuvent accepter ce genre de choses, mais les Australiens, ça passe pas du tout. Alors je dis, mais attends, tu veux qu'on vienne te toucher pour que maintenant on croit aux apôtres, mais ça va pas? Tu te prends pour qui? L'autre incident, c'était dans les premières années de vie chrétienne en France, où on avait lancé notre mouvement, il y avait des églises qui arrivaient, on était en train de faire naître des églises dans différentes régions de France. Et puis, il y a un ministère en Angleterre qui a pris contact avec nous, il a demandé de me voir. Alors, bon, ben, écoute, oui, on veut bien. Et donc, on l'a invité à la maison pour un repas, fraternellement, pour faire connaissance. Et puis, dans la conversation, il m'a regardé droit dans les yeux et il m'a dit, « Vincent, qui est ton apôtre ?» Mon coco, on ne parle pas comme ça, moi. Qui est ton apôtre? Ça veut dire quoi, ça? Il voulait me chapeauter. Et qui dit chapeauter veut dire manipuler. Qui est ton apôtre? Alors, quand j'entends quelqu'un qui me parlait comme ça, eh bien, ça ne me donne pas envie de parler d'apôtre. Vous avez peut-être aussi eu vos mauvaises expériences avec ceux qui font leur promotion de ministère, hein, avec cette notion d'apôtre. Peut-être vous-même, on vous a dit, mais qui est votre apôtre? Donc, aujourd'hui, on doit se libérer un peu de tout ça pour arriver quand même à quelque chose qui est fondamentalement biblique et qui est au cœur même de la réussite de l'Église primitive. Parce que le rôle de l'apôtre dans l'Église des premiers temps était fondamental. Et en fait, le livre que nous avons qui décrit l'évolution de l'Église, la première Église des premiers chrétiens, la vraie Église, dont eux étaient membres des vrais chrétiens, eh bien, s'appelle les Actes des Apôtres. On peut pas esquiver ça. Alors, on comprend que la réussite de l'Église primitive, c'était le travail du Saint-Esprit qui était lié au travail des apôtres. Vous pouvez pas nier ça. C'était le travail du Saint-Esprit qui était étroitement lié au travail des apôtres, qui a produit l'Église primitive
que nous connaissons. Donc, quand nous abordons cette question ministère d'apôtre, réseau apostolique, il faut vraiment savoir de quoi nous parlons. J'aimerais aujourd'hui faire 6 déclarations concernant le ministère de l'apôtre. Ce sont des déclarations que je peux défendre bibliquement sans hésiter, qui ont des conséquences majeures pour nous tous et pour nos églises et pour Emma. La première est certainement celle qui est la plus importante. La première déclaration que j'aimerais faire, c'est un apôtre est avant tout un envoyé de Dieu. Le mot apôtre, si vous avez vous-même fait une étude sur ce sujet, le mot grec apostolos signifie un délégué, un envoyé avec des ordres précis, un ambassadeur, un chargé de mission, un missionnaire, un messager. Première équipe apostolique, c'était celle de Jésus. Il a nommé 12 disciples qu'il les a appelés des apôtres. D'autres ont été disciples, mais ils n'ont pas été nommés apôtres. Mais ces premiers disciples, ils ont reçu une autre appellation de la part de Jésus, apôtres. Et ça, nous avons ça dans Luc chapitre 6, verset 13. Vous notez si vous voulez, quand le jour fut levé, il appela ses disciples et il en choisit parmi eux 12 auxquels il donna le nom apôtres. Un apôtre, Jésus-Christ, un apôtre n'est pas élu par une assemblée générale. Il n'est pas nommé par un conseil d'administration. Il n'est pas nommé par une convention nationale. C'est Dieu qui l'établit et les chrétiens qui reconnaissent. C'est comme ça que ça marche. Il porte une autorité spirituelle. Cette autorité n'est pas une autorité politique. Ce n'est pas une autorité administrative. C'est une autorité spirituelle qui lui a été donnée par Dieu et non pas par les hommes. Et cette autorité spirituelle de l'apôtre sera reconnue par des gens spirituels. Mais ceux qui cherchent le pouvoir politique et administratif se poseront en opposition à cette autorité spirituelle parce qu'elle est gênante. À l'exemple des pharisiens et Jésus. Ils étaient gênés par l'autorité spirituelle que Jésus communiquait au peuple et ils se sont positionnés en opposition à cette autorité spirituelle. Quand on remet l'accent sur le ministère apostolique, on remet l'accent sur ce que Dieu fait et non pas sur ce que l'homme fait. Je pèse mes mots aujourd'hui parce que je sais que vous allez prendre l'enregistrement et vous allez le balancer partout et puis je dois faire attention à ce que je dis. C'est même filmé, alors là j'ai aucune chance, on va me crucifier après ça. Mais j'ai pas l'intention de mettre ma langue dans ma poche aujourd'hui. S'il y a une chose que j'aimerais vous dire, accrochez-vous bien. C'est ce que Paul a dit aux philosophes grecs. Dieu n'habite pas des temples faits de la main de l'homme. Actes 17, 24. J'aimerais me le dire à moi. Vincent, Dieu n'habite pas des temples faits de la main de l'homme. Alors ne fais pas un temple, toi. Parce que Dieu ne va pas y habiter. Et j'aimerais vous dire quelque chose ce matin, à vous. Dieu n'habitera pas vos temples faits par vous. Il ne dit pas que nous ne pouvons pas faire des temples. Il dit que Dieu n'habitera pas dans votre temple. Vous pouvez faire des temples magnifiques, et il y en a des superbes. Toutes les religions ont leur temple, même les pentecôtistes ont leur temple. Mais Dieu, il a déclaré dès le début, moi j'habiterai pas vos temples. David, il a dit, Seigneur, j'ai envie de construire une maison pour toi. Dieu a dit, mais David, tu te prends pour qui, toi? Construire une maison pour moi, mais les cieux ne me contiennent même pas. Et tu veux, toi, me construire un temple? Ah, vous allez me répondre, oui, mais il a donné des directives à Salomon pour construire son temple, et puis la gloire, elle avait... Oui, mais est-ce que vous avez vu la suite des choses? Le temple de Salomon, c'est un lieu de prostituée. Après la gloire, les déboires. Donc, si vous voulez construire un temple, vous construisez votre temple, vous. Mais Dieu n'y habitera pas. Il l'a dit. La seule maison qui sera construite, c'est celle que Jésus construit. Je bâtirai mon église. Il a dit. Alors on le répète, c'est vrai, on répète comme un slogan, comme une mantra. Mais si ce n'est pas Jésus qui construit, si on n'a plus besoin de Jésus pour construire, eh bien, ce sera Ichabod. Il n'y aura plus la gloire. Donc ici, on a une question de fond quand même par rapport à est-ce que c'est nous qui construisons ou est-ce que c'est Dieu qui construit? Et c'est une question de fond parce que Pierre lui-même l'a abordé avec la question à qui obéissons-nous? Est-ce qu'on obéit à Dieu ou est-ce qu'on obéit aux hommes? Alors, vous vous souvenez, et puis ça c'est Actes 5, 29, Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Est-ce qu'on vous a déjà cité ce verset-là, vous les pasteurs? C'est souvent des rebelles, hein? J'ai remarqué, les rebelles de nos églises, ils citent ça, et puis c'est obéir à Dieu, ça veut dire j'obéis pas, j'écoute pas le pasteur. Alors tout de suite que quelqu'un me cite ce verset-là, j'y rebelle. Sauf que on perd un principe très important dans ce que Pierre dit là, attention. Parce qu'il était en train de parler au Sanhédrin, il était en train de parler au chef des Juifs. Il fait cette déclaration au souverain sacrificateur. Il dit, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. J'aimerais vous dire que, chers amis, il faut que nous obéissons à Dieu plutôt qu'aux hommes. Vrai ou pas vrai? C'est vrai. C'est vrai. Mais c'est radical ce que dit Pierre là. Parce que tout ce qui n'est pas de Dieu veut s'imposer en disant « Écoute-nous !» Ce que dit Pierre est une véritable révolution spirituelle dans cette phrase contre l'establishment religieuse. Je dis « Vincent, tu prêches la révolution aujourd'hui !» Je dis « Ouais, je prêche la révolution apostolique. » On veut renverser les choses aujourd'hui parce que je suis jusque-là par rapport à ce que je vois dans nos milieux évangéliques. La révolution apostolique, tiens, bon nom pour un livre. En fait, un livre a été écrit par un ami à moi qui aujourd'hui est décédé, un ami que certains d'entre vous ont connu, qui a fait des séminaires que nous avons organisés pour notre mouvement, David Cartledge. David Cartledge était un de peut-être 5 ministères qui ont déverrouillé l'Australie. L'Australie, dans les années, début des années 70, le pentecôtisme, c'était un mouvement petit,
rétro, replié sur lui-même, légaliste. Et les raisons pour ça, c'était pas parce qu'il croyait pas au Saint-Esprit, au don spirituel, parler en langue, guérison, prophétie, etc. C'était parce que les églises étaient verrouillées par une conception de vie d'église que ceux qui dominaient la vie de l'église, c'était le conseil d'administration. Oh, ils appelaient ça le conseil d'église, le conseil paroissial, le conseil. Et la notion d'autorité dans l'église, c'était le conseil dirige l'église et le pasteur, le ministère est un salarié qui doit rendre des comptes, non pas à Dieu,
mais au conseil.
Et ça avait complètement paralysé l'œuvre de l'esprit. Et David Cartledge et 4 ou 5 autres ministères, je les ai tous connus, plusieurs sont décédés aujourd'hui. Ils sont arrivés en tant que ministres et ils ont cassé ça dans leur mouvement pour remettre en valeur des hommes et des femmes que Dieu a envoyés avec une autorité spirituelle pour conduire le mouvement de l'esprit dans les choses de Dieu de nouveau et non pas dans les choses des hommes. Pour de nouveau que les chrétiens et les églises obéissent à Dieu et non aux hommes. La suite, elle est magnifique. L'Australie. Vous allez trouver des Australiens partout dans le monde dans l'œuvre de Dieu. Hillsong partout au monde. Mais Hillsong n'est qu'un de plusieurs mouvements qui émanent d'Australie et qui sont partout dans le monde aujourd'hui. En fait, quand j'étais au Danemark il y a quelques années, il y a un pasteur au Danemark qui il m'a dit ceci. En Europe, tout ce qui bouge, il y a un Australien dedans quelque part. Mais pourquoi? Parce qu'il y a eu une révolution dans les années 70 où ils ont brisé la puissance qui tenait les églises pour libérer les forces vives de l'esprit. Oui, chers amis, on fait la révolution aujourd'hui. La révolution apostolique. Alors, c'est l'apôtre Jean qui est quand même a des déclarations aussi un peu étonnantes. Pourquoi ? Parce que l'apôtre a une telle importance que dans le Nouveau Testament, l'enseignement des apôtres, c'était Dieu qui parlait. Vous savez ça ? Quand les apôtres enseignaient, Paul, Pierre, Jean, c'était Dieu qui parlait. Donc, il fallait bien écouter Dieu parler à travers des apôtres. On vous allez dire, c'est dangereux ça. Tu veux dire que si tel ministère apôtre parle, c'est Dieu qui parle, oh, c'est dangereux ça. Oui, non, mais ben, si ça vous plaît pas, eh bien vous jetez votre Bible, hein. Ou bien arracher le Nouveau Testament, déjà. Mais c'était ça. Ils étaient, un des fondements de l'Église primitive, c'était l'enseignement des apôtres. Et les enseignements des apôtres, les épîtres, eh bien, c'était la parole de Dieu pour ces premiers chrétiens. Ils voulaient savoir ce que Paul allait écrire sur tel sujet, sur Pierre ce qu'il allait dire, sur Jean ce qu'il allait dire, et les autres. En fait, Jean est tellement audacieux, il dit, nous sommes de Dieu. C'est Jean qui dit ça. Nous sommes de... C'est un homme qui dit ça. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est ainsi que nous identifions l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. C'est une façon intéressante de trier les gens. Quand même. Parce que si moi, si j'ose dire, je suis envoyé de Dieu, bah, c'est un peu prétentieux quand même. Mais j'y crois. J'y crois. Ça veut dire que si je suis vraiment envoyé de Dieu, ça veut dire que ceux qui sont de Dieu vont le reconnaître. Mais ceux qui ne veulent pas entendre ce que je dis,
eh bien, n'écoute pas Dieu. Qu'est-ce que j'ai pas dit là? Mais est-ce que vous comprenez le principe ici? Si quelqu'un est envoyé de Dieu, comment on réagit par rapport à ce qu'il dit va faire un tri entre ceux qui sont de Dieu et ceux qui ne sont pas. C'est par ce moyen-là qu'on identifie l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. Dans notre façon de répondre à celui que Dieu a envoyé. Donc, il ne faut pas se tromper de ceux à qui nous écoutons. Il ne faut pas se tromper. Parce que si tu te trompes, tu t'identifies avec peut-être l'esprit qu'il ne fallait pas, avec lequel il ne fallait pas s'identifier. Et il y a un tri qui se fait là, par rapport à une autorité spirituelle. Je me souviens, j'avais 19 ans, j'étais universitaire, j'avais connu Jésus, mais dans un contexte d'église traditionnelle, et puis, mais j'avais une soif pour le Seigneur, et dans mon église traditionnelle, ça répondait pas à cette soif, et puis j'entendais qu'il y avait, une église, à Brisbane, et puis les gens allaient, et puis c'était fort, c'était puissant, il y avait la louange, et puis la prédication, et puis quand j'entendais ça, je disais, je veux y aller. Et quand j'ai dit ça à quelqu'un, il m'a dit, ouh, surtout va pas là. J'ai dit, pourquoi? Il m'a dit, parce que des gens qui vont là sont crédules. Sont des crédules. Ils, dans les réunions, dans les prédications, ils passent leur temps à hocher la tête. Je dis, oh. Oh, moi, j'avais 19 ans, j'étais universitaire. Être incrédule, non, ah non. Ah non, incrédule, non. Mais j'avais soif aussi. Alors, je suis allé. J'étais au fond de la salle. Et qu'est-ce que je vois après la louange? Qu'est-ce que je vois? Prédication commence. Et qu'est-ce que je vois? Les gens qui font ça. J'étais en pleine réaction. Quand j'ai commencé à me calmer pour écouter ce que j'entendais, j'ai dit, c'est pas mal ça. Alors j'ouvrais ma Bible et puis je lisais les passages que le pasteur prêchait. Son nom, c'était le pasteur Trevor Chandler, que certains ont connu. Et pendant qu'il prêchait, moi je lisais la Bible, je faisais. Et quand j'ai été percuté par cette vérité, quand cette autorité spirituelle a commencé à me toucher et m'interpeller et bousculer dans ma tête ce que je croyais, ce que je pensais, et dans mon cœur, j'étais saisi par ça. Et à partir de ce moment-là, il n'y avait plus rien qui pouvait m'empêcher de venir l'écouter prêcher les dimanches. J'étais encore plus fidèle que lui aux réunions. Lui, il se permettait de faire un petit voyage à droite et à gauche, mais moi, j'étais toujours là. Et je voulais prendre pour moi. Je voulais prendre pour moi. Pourquoi? Parce qu'il y avait une autorité spirituelle. Il y avait un esprit de vérité qui pénétrait jusque dans ma vie. J'étais là. Un jour, j'aimerais prêcher comme lui. Alors un jour, je suis allé le voir. Bon, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, mais j'avais une grosse barbe et puis des cheveux qui allaient dans tous les sens. J'avais des jeans avec des trous que j'avais fait moi-même. Et puis, je suis allé le voir. Et j'ai demandé rendez-vous. Et puis, lui, avec son beau costume et puis sa cravate. Et puis, il m'ouvre la porte et puis il me voit. Il a eu peur. Et puis, je suis rentré. Et il m'a dit, oui, jeune homme, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Il dit, je veux devenir pasteur. Alors il m'a regardé avec un ton sévère et il m'a dit, bon, ben écoutez, étudie la parole et sois patient. Bon conseil.
Par la suite, il est devenu mon père spirituel. Il a formé ma vie avec son autorité spirituelle. Un homme d'apôtre, un apôtre qui a marqué son pays et qui nous a marqué, nous, dans notre mouvement. Dans les premières années, Michel, tu te souviens? Alors quand, pour terminer ce premier point, puis on va peut-être faire une pause après ça. Dieu, quand il a une idée, qu'est-ce qu'il fait? Il formule un plan. Quand Dieu a une idée, il formule un plan. Et il envoie un homme. Ou une femme. Ou une femme. Quand Dieu a une idée, il formule un plan et il voit un homme, il envoie un homme ou une femme.
Amen.
Il n'envoie pas un conseil d'administration. Il faut vraiment que nous, en tant que dans le ministère, il faut qu'on ait des bons conseils d'administration. Au début, à la réunion, bon, c'est vrai, quand on commence, on prend ce qu'on a, hein. On ne choisit pas trop. De toute façon, il nous faut un trésorier, il nous faut un secrétaire, il faut... Toi, t'en prends. Il faut faire une déclaration en préfecture. On ne choisit pas trop, on n'a pas le choix. Bon, c'est bon. Hein, c'était le cas à la réunion. Sauf que je savais que j'avais un problème quand le vice-président et puis sa femme, la trésorière, ils m'ont dit « De toute façon, nous, on donne la plus belle dîme, donc on veut qu'on soit consulté avant de prendre quoi que ce soit comme décision. » J'ai dit « Pardon ?»« Oui, de toute façon, nous, on donne la plus grosse dîme, donc on veut que les décisions de l'Église soient passées par nous. » »« Ah ! » !»« Eh bien, vous prenez votre dîme et vous et partez. » Non, il faut. Écoutez, pas exagérer quand même. Dieu envoie un homme ou une femme, il n'envoie pas un conseil d'administration. Ce n'est pas votre conseil d'administration qui est la source de bénédiction pour votre Église. Ce n'est pas l'avis de votre conseil d'administration qui est la voix de Dieu pour vous. Wouhou ! Il y a quelqu'un ? Un conseil d'administration est là pour vous soutenir, pour vous encourager, pour vous suivre, pour vous aider, pas pour vous mettre des bâtons dans les roues. Parce que si vous partez, l'Église, elle ne va pas faire ça. Hein. Si vous partez, l'Église va faire ça. Même si les comptes sont réglos, et puis les rapports de conseil d'administration et assemblée générale, c'est comme ça, l'Église va faire ça. Parce que l'Église, c'est pas des comptes rendus de réunions d'administration, c'est pas une bonne comptabilité tenue. L'Église, c'est le ministère et l'autorité spirituelle qui va couler dans cette Église, soutenue par toute la structure. Et dans nos églises, on a trop de petits fonctionnaires qui se croient investis d'une autorité dans le royaume de Dieu qu'ils n'ont pas et qui s'imposent par rapport au pasteur, par rapport à sa vision, par rapport à son ministère et qui rendent la vie difficile, disons-le. Et si je le dis, c'est pour vous préparer à ça. J'ai appris que certains d'entre vous, vous voulez faire partie d'Emma, mais vous avez des conseils d'administration qui sont récalcitrants, disons-le. Et donc, pour préserver la paix, eh bien, vous vous écrasez. Parce que c'est le conseil d'administration. Eh bien, moi, je vous dis, vous mettez les choses à l'envers. Et vous faites erreur. Parce que c'est au conseil d'administration de vous suivre en tant qu'homme ou femme de Dieu et pas à vous de suivre un conseil d'administration qui pense que règlement intérieur et puis rapport et puis tout le machin. Et alors, si vous vous sentez concerné, et je regarde à personne, j'ai deux conseils à vous donner pour un conseil d'administration qui est plutôt résistant. Il faut les mettre sous pression. Il faut les mettre sous pression. Alors, comment les mettre sous pression? Premièrement, c'est d'augmenter le nombre de réunions de conseil d'administration. Et quand vous convoquez votre conseil d'administration, ce n'est pas pour discuter de l'Église. Ce n'est pas pour discuter des finances. Ce n'est pas pour discuter du prochain achat. Ce n'est pas pour discuter comment on va préparer l'Assemblée générale. C'est pour leur faire une étude biblique sur le ministère. Parce que vous savez, une étude biblique sur le ministère, on peut faire durer le plaisir. Ça peut durer des mois, ça. Pour les mettre devant ce que Dieu dit par rapport à l'autorité spirituelle et le rôle du ministère. Si vous avez un conseil d'administration qui est plutôt peureux et qui, pour eux, leur seule motivation réelle de ne pas venir, c'est parce qu'ils veulent la protection de la Fédération protestante de France. Donc, oui, on sait qu'on est sous la protection de Dieu, mais on a quand même peur. Hein? Eh bien, j'aurais un petit conseil comment les mettre sous pression. Mais je ne le dirai pas publiquement. Venez me voir durant la pause et je vous le dirai. Jean a dit ceci. Il a dit que comment nous sommes reçus, c'est Jésus qui l'a dit. Et parce que c'est Jésus, c'est quand même important. Pas vrai? Tu vois, on peut essayer d'esquiver en disant « Oui, mais c'est Paul, et tu sais, Paul était un peu ceci, un peu cela. » Non, mais attends, c'est Jésus. Jésus est le Fils de Dieu. La parole de Dieu faite chair. Alors, si ça ne vous plaît pas ce qu'il dit, vous avez vraiment un problème. Et Jésus a dit ceci, que la façon dont vous recevez quelqu'un que j'envoie, c'est la façon que vous me recevez moi. En vérité, Jean 13:20, je vous le dis, qui reçoit celui que j'aurai envoyé, me reçoit. Et qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Imaginons un peu que je sois envoyé par Jésus. Imaginons. Jésus m'envoie. Comment vous me recevez? Parce que votre façon de me recevoir, c'est la façon que vous recevez Jésus qui m'a envoyé. Si vous me recevez mal, je crains pour vous. Parce qu'en fait, vous recevez mal celui qui m'a envoyé. Je ne rajoute pas. Hein. C'est bien ce qui est marqué. Hein. Parce que vous le voyez, moi je ne le vois pas. Hein. Alors, il est dans mon dos. Mais vous, apparemment, vous le voyez. Et donc, aujourd'hui, on veut accueillir les hommes et les femmes que Dieu envoie. comme on accueille Jésus. Honorer, écouter, accueillir. Et en cela, nous accueillons notre maître qui les a envoyés. On va prier ensemble. Seigneur, libère ton œuvre. Libère ton œuvre, Jésus, libère ton œuvre. Saint-Esprit, reviens dans ton Église. Ici, tu as des hommes et des femmes qui veulent obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. On n'est pas des rebelles, Seigneur, mais c'est qu'on a compris des principes fondamentaux que cette Église, s'il n'appartient pas à Jésus, elle appartient à personne. Aujourd'hui, Seigneur, nous ne pouvons pas supporter l'idée que nous allons construire un temple fait de mains d'hommes dans lequel Dieu n'habite pas. C'est insupportable cette pensée, Seigneur. Que finalement nous savons comment gérer les affaires d'une église et on peut faire ça sans Dieu, sans Dieu. Finalement, eh bien, nos règlements intérieurs et puis nos commissions et nos rapports et tout ça, eh bien, ça fait tourner l'affaire. On n'a plus besoin de Dieu. Seigneur, libère ton Église. Aujourd'hui, nous te remercions pour tous ceux qui sont là pour nous accompagner, pour nous aider. Nous voulons respecter chacun dans ses convictions. Seigneur, s'il y en a qui ont telle conviction, eh bien qu'ils les gardent devant Dieu. Mais nous parlons de nous aujourd'hui, nous parlons des enjeux pour nous. Si tu nous donnes cette conviction, Seigneur, nous voulons être fidèles à cette conviction. D'autres ne l'ont pas, ne la partagent pas, nous le respectons, Seigneur. Mais aujourd'hui, nous avons besoin, nous, dans notre lecture de ta parole, être fidèles à ce que nous lisons, ce que nous croyons, ce que nous voulons vivre, Seigneur, avec toi. On te demande, Jésus, de construire l'Église, mais c'est vrai, on se demande parfois, c'est quoi Jésus qui construit son Église ? En tout cas, Seigneur, nous voulons vivre ça à Emma. Nous voulons vivre ça à Emma. Amen. 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 Merci. La suite, c'est pour plus tard.